c'est une archive de mai 1998, qui nous disait « Désormais, les gouvernements doivent se plier à la discipline de la Banque Centrale Européenne. » Se plier à la discipline de la Banque Centrale Européenne, alors que cette Banque Centrale Européenne échappe à tout contrôle démocratique. Ce qui fait que, les instances élues n'ont plus la capacité d'intervention sur les politiques macroéconomiques, les grandes lignes politiques, et réduit à des sujets un peu secondaires, un peu subalternes. Mais là, il faut se plier aux injonctions et quasiment aux ordres. On l'a vu avec ce qu'on a évoqué dans les reportages précédents, à cette mise quasiment sous tutelle du gouvernement italien au cours de l'été. Et invariablement, depuis sa création, depuis 1998, la réponse de la Banque Centrale Européenne au problème du chômage, au problème de la flexibilité, au problème, à tous ces problèmes que nous connaissons, reçoivent la même réponse au nom de la sacro-sainte stabilité. Eh bien, la réponse est « ça ne changera pas, on ne changera pas ». Et donc, on va accroître tout ce que nous savons sur le chômage, les privatisations, etc. C'est là qu'on trouve l'une des causes, sans doute pas la seule, de ce que nous vivons quotidiennement. Ça méritait d'être un peu éclairé. Alors à tout cela, il y a une histoire. On a commencé à évoquer que, par exemple, la nationalisation de la Banque de France en 1945 et cette lutte entre le pouvoir de la banque, enfin le pouvoir de la création monétaire et de la contrôle monétaire et le pouvoir politique. Sur ce sujet, les explications de Serge Halimi, directeur du Monde diplomatique et auteur d'un livre intitulé « Quand la gauche essayait ».
Serge Halimi, lors de ma visite à la Banque Centrale Européenne, j'ai rencontré le responsable de la salle des marchés, qui m'a expliqué comment était créée la monnaie, comment elle était créée finalement à la Banque Centrale Européenne via les demandes des banques commerciales. Et il me présentait cette indépendance, cette création privée du crédit, comme un grand progrès, comme, disait-il, un acquis de la construction européenne.
C'est un progrès de la même manière que vous estimeriez que c'est un progrès si la politique militaire était décidée par les généraux et la politique de santé uniquement par les laboratoires pharmaceutiques. On peut penser qu'il est quand même important qu'une autorité supérieure, démocratique, qui n'a pas uniquement les intérêts des financiers à l'esprit, arbitre les décisions importantes qui concernent la finance. Et il faut voir que quand la personne vous a dit que c'était bien l'indépendance des banques centrales, ce que cette personne a oublié de vous dire, c'est qu'il y a une période où déjà l'argent, les banques centrales privées, ça existait, et qu'il y a eu toute une tradition historique de la gauche, notamment de la gauche française, qui a pensé qu'il fallait arraisonner la finance et l'associer aux politiques, et qu'il a d'autant plus pensé qu'elle a eu un certain nombre d'expériences très douloureuses avec une finance indépendante.
Là, Daniel, je me trouve presque à côté de chez toi. Je me trouve dans le premier arrondissement, rue Croix des Petits Champs, à Paris. Et là, il y a la Banque de France, avec au-dessus le drapeau européen et le drapeau français. Évidemment, un planton en faction dans sa petite guérite devant l'entrée. Si je viens ici, c'est que pendant un demi-siècle, le cœur des forces réactionnaires, on peut dire, la pire opposition à la gauche, elle s'est trouvée ici, à la Banque de France. Parce que il y a peut-être la Banque Centrale Européenne comme opposante à la gauche européenne, mais avant ça, il y avait déjà la Banque Centrale Française comme opposante à la gauche française. Alors là, Il faudrait s'imaginer